Frères et sœurs, que le Seigneur Jésus vous bénisse, qu'il soit agissant par son Saint-Esprit, sa présence au milieu de nous, et que ce message puisse vous apporter quelque chose de nouveau, de fort, d'édifiant, tout simplement. Alors, c'est un message où je vais vous demander d'abord quelque chose. C'est de prier pour un réveil. Priez instamment, je voudrais que vous puissiez prier instamment pour un réveil. Et à partir du moment où je vous fais cette demande, je dois définir ce qu'est un réveil. Qu'est-ce qu'un réveil ? Alors, parce que rien ne se fait sans qu'il y ait un réveil. Il est écrit dans Esdras, hein, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. À partir du moment où l'Éternel réveille l'esprit de Cyrus, Cyrus parle et les événements se déroulent. Eh bien, la définition d'un réveil, en fait, est très simple. Jésus nous en donne la définition par sa parole et son acte dans Jean au chapitre 11. Si nous le prenons à partir du verset 11, c'est facile à retenir. Jean chapitre 11, verset 11. Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort, je vais le réveiller. Les disciples lui dirent: Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Donc Lazare dort, je vais le réveiller. Lazare est mort, je vais lui redonner la vie. Un réveil, c'est aussi simple mais puissant, surtout que cela. Et Jésus ne fait pas que dire ce qu'il va faire, il va réellement le faire au verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: déliez-le et laissez-le aller. Voici le réveil. Le mort ressuscite par la parole de Christ. Lazare sort. Lorsque quelqu'un est pris par la mort, Jésus est le seul à pouvoir le réveiller. Au chapitre 5 du même évangile, verset 25, car l'heure vient et elle est déjà venue, en vérité je vous le dis, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. La voix du Fils de Dieu. C'est là que vient la vie. C'est là qu'il y a le réveil. Lorsque la voix du Fils de Dieu résonne et va chercher quelqu'un qui est dans la mort. Alors, la mort, vous le savez, n'est pas venue toute seule, elle est venue par le péché. Et l'apôtre Paul peut nous enseigner que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, lorsque Jésus redonne la vie, il doit régler le problème du péché. Si le problème du péché n'est pas réglé, la vie ne peut pas être donnée. Si les deux sont liés. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3, vous connaissez bien sûr ce passage que je vous rappelle. Nous étions morts, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature enfants de colère comme les autres. Donc, juifs et païens sont sous la même domination du péché et de celui, le prince de la puissance de l'air, celui qui a amené l'homme dans le péché. On remonte encore plus loin là. Et du fait de leur marche dans le péché, ils sont morts à la vie de Dieu. Et le péché, donc, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Ici, il est dit, vous marchiez autrefois dans les péchés et nous vivions selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Voilà. Le péché, ce sont des œuvres mauvaises. Ça se traduit nécessairement, automatiquement, par des œuvres mauvaises. Et Jésus est venu régler le problème du péché et de la mort. Il rend à la vie par le pardon et la victoire sur le péché. Éphésiens, toujours la suite. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Bien sûr qu'en ressuscitant Lazare, Jésus anticipe sur ce que Dieu va faire à travers lui, pour Lazare et pour nous tous, par sa propre mort et sa résurrection. Dieu va livrer son fils pour le péché et va le ressusciter, va le rendre à la vie. La résurrection de Lazare, et je le redis ici, je l'ai déjà dit, lorsque Marie vient oindre les pieds de Jésus, Marie de Béthanie, et que Jésus dit, ce qu'elle a fait, c'est pour mon tombeau, pour lorsque je serai donc enseveli. Marie a saisi, a compris que la résurrection de son frère Lazare va valoir la mort du Fils de Dieu. Elle a compris cela. Elle vient adorer celui dont elle sait déjà qu'il a donné sa vie pour son frère. Donc, la résurrection de Lazare n'aurait pas eu lieu si Jésus n'était pas déjà décidé à donner sa vie pour son ami. Donc, Jésus ressuscite Lazare en témoignage de sa propre mort et sa résurrection, qui amènera la résurrection de tous ceux qui entendront sa parole. Être réveillé de la mort en entendant la parole de Christ, qui concerne le pardon de nos péchés et notre vie nouvelle auprès de Dieu dans les cieux. Parce que Jésus nous introduit dans les lieux célestes. Donc ça, c'est le réveil fondamental dans notre vie personnelle, en entendant la parole de Dieu qui vient nous donner vraiment l'effacement du péché et la vie nouvelle du Saint-Esprit et notre position nouvelle en Jésus-Christ dans les cieux. Nous sommes réveillés. Nous sommes réveillés de la mort. Et donc, sur un plan personnel, c'est ça le réveil de quelqu'un. C'est lorsqu'il reçoit la parole de Christ qui le fait passer de la mort à la vie par le pardon de ses péchés et le don de la vie de Christ qui est auprès de Dieu maintenant dans les cieux. La vie nouvelle, c'est la vie de Christ ressuscité et qui est auprès de Dieu. Vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, nous dit aussi l'apôtre dans Colossiens. Alors, ça c'est sur un plan personnel, et sur un plan ecclésial, bien sûr que un réveil, c'est tout simplement lorsque les fidèles annoncent la parole de Dieu avec assurance et amènent un grand nombre à la vie nouvelle en Jésus-Christ, à la conversion, à la foi en Christ qui s'est donnée pour eux et qui vient leur donner donc cette vie nouvelle. Donc une église réveillée est nécessairement une église qui annonce la parole de Dieu pour le salut des pécheurs. C'est une église évangélisatrice, c'est une église où la parole vraiment est annoncée en direction de ceux qui n'ont pas encore reçu, qui ne sont pas encore passés à la vie nouvelle, ceux qui sont encore dans la perdition, de sorte qu'ils reçoivent la vie de Christ. C'est une église réveillée. Elle prêche la parole à des perdus pour qu'ils soient sauvés en Jésus-Christ. Ils passent de la mort à la vie. Alors, mais il y a un second aspect qui apparaît dans les textes des apôtres. C'est lorsque les mauvaises œuvres sont toujours là chez ceux qui ont reçu la vie nouvelle par la foi. Il y a manifestement ce cas de figure qui tracasse, on peut dire, les apôtres, donc qui fait que les apôtres sont obligés d'exhorter les chrétiens eux-mêmes au réveil. Alors que, par principe, ils sont réveillés, ils sont dans la vie de Jésus-Christ. Et pourtant, je vais prendre trois passages. Romains, chapitre 13, versets 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Incontestablement, l'apôtre s'adresse ici à des chrétiens. Et c'est donc à des chrétiens qui marchent encore dans de mauvaises œuvres. Et il leur dit, il est temps de vous réveiller de votre sommeil. En fait, vous êtes supposé, et spirituellement vous êtes réveillé en Christ, mais ça ne traduit pas, vous continuez à partager la vie des hommes de ce monde, la vie de la chair. Vous continuez à vivre dans la chair. Vous continuez à être endormi spirituellement. La même chose en Éphésiens au chapitre 5, versets 8 à 21. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire tout ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ici, c'est un véritable avertissement à ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais à marcher dans l'esprit de bonté, de justice, de vérité, de sainteté et conséquemment de louange, d'adoration, de célébration, d'édification mutuelle. C'est quand même une situation terrible que de se conformer aux morts alors que nous avons reçu la lumière de la vie. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Et pourtant, vous continuez à vous comporter comme si vous étiez mort spirituellement. Donc, reprenez-vous, réveillez-vous, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Ça fait référence à cette mention, puisqu'il dit, c'est pour cela qu'il est dit. Il y a un passage dans Ésaïe qui montre le drame des Israélites, hein, au chapitre 26 du prophète Ésaïe, versets 18 et 19. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé, et ses habitants ne sont pas venus à la vie. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent, réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux morts. 26 donc de Ésaïe, versets 18 et 19. Voilà cette situation pendant un moment du peuple d'Israël qui voulait travailler pour Dieu, mais rien ne se passait. Il n'y avait pas la vie. Et la parole de Dieu retentit à ce moment-là: que tes morts revive, et avec la joie, l'esprit là, qui est donné, hein, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux morts. Il peut y arriver, donc, dans le contexte de l'Église, que l'on se trouve dans ces situations où apparemment, donc, on travaille, on continue à essayer de semer, de travailler pour le Seigneur, mais où les choses ne se développe pas, où la vie ne semble pas se manifester, eh bien vraiment, à ce moment-là, devons demander que la parole de Dieu, la parole du Seigneur se manifeste à nouveau pour voilà, faire manifester cette vie nouvelle qui est en Jésus-Christ. Et nous voyons que chapitre 52, donc du même prophète Ésaïe, verset 1, eh bien, nous avons une proclamation. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Réveille-toi, réveille-toi. Le Seigneur vient, plutôt que de rester dans ses habits de deuil, revêt tes habits de fête, Jérusalem. Revêt tes habits de fête, Église. Revêt-toi de la justice de Christ. Revêt-toi de la joie du salut. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 4 à 11, c'est la même approche. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur, puisqu'il est question de ce jour du Seigneur qui va venir comme un voleur dans la nuit. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, et ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Parole qui conclut également le passage d'Éphésiens que nous avons lu tout à l'heure. Édification mutuelle. Vous voyez ici le fait de dormir ou s'enivrer, c'est la même catégorie. Ceux qui dorment, dorment la nuit, ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Au fait de dormir spirituellement est associé le fait de vivre inconsidérément. Et le Seigneur nous demande également, donc dans ce passage, de ne pas dormir comme les autres, mais de veiller et d'être sobre. Donc d'être rempli de cette vie de l'Esprit de Dieu qui vraiment donne une qualité différente à notre vie. Donc, pour le chrétien, il y a aussi une forme de réveil personnel, de ne plus vivre dans les mauvaises œuvres, mais au contraire les éliminer par les moyens d'édification. Et une église, dans ce sens, une église réveillée, c'est une église qui permet que l'édification mutuelle, eh bien, fasse que les chrétiens se conforment à Christ, mais ne vivent plus selon la chair, selon le monde, selon leurs intentions personnelles, mais vraiment selon l'Esprit de Dieu. Une église réveillée, c'est donc une église qui entretient les membres, les fidèles, dans une vie digne à la gloire du Seigneur. Donc, nous ajoutons les deux définitions, les deux approches, disons, la première et la deuxième, ça donne vraiment un réveil. C'est les deux ensemble qui font le réveil. Donc, une église, une seule personne, bien sûr, peut être réveillée. Elle peut témoigner, annoncer la parole du Seigneur autour d'elle et vivre une vie nouvelle, vivre une vie où il n'y a plus de mauvaises œuvres. Voilà, une personne peut être pleinement réveillée pour elle-même. Mais nous sommes appelés à être réveillés en tant qu'Église. Donc, à être une Église, une communauté qui apporte la parole aux perdus, qui évangélise pour donner le message du salut et permettre à ceux qui sont morts spirituels de recevoir cette parole et de passer de la mort à la vie. Et dans le même temps, une Église qui édifie ses membres pour qu'ils ne restent pas dans une vie finalement marquée par les mauvaises œuvres, les œuvres des ténèbres, mais où tout cela disparaisse et où chacun puisse se conformer à la vie qui est en Jésus-Christ et recevoir de Christ donc cet esprit de sainteté et de victoire. Une Église réveillée, eh bien, après, elle va trouver, par la grâce de Dieu, les moyens d'une bonne administration, d'une communion avec les autres, d'autres églises, voilà, une qualité de louange, de nouveaux services, de nouvelles œuvres. Tout ça, ça va venir se greffer sur ces deux aspects fondamentaux qui sont la prédication du salut par la foi en Jésus-Christ et la vie de sainteté qui lui est associée. Et si ensemble nous vivons vraiment dans cet esprit et que nous demandons au Seigneur, et voilà ce que je vous demande de prier, c'est que nous recevions cette grâce du Seigneur d'être capables d'annoncer sa parole aux perdus et de nous édifier sur les bases de la vérité et de la sainteté du Seigneur pour que tout le monde vive cette vie belle et heureuse en Jésus-Christ parmi nous. Édifiez-vous mutuellement. Alors, je sais que la semaine prochaine, vous ne devriez pas être nombreux au culte ici dans cette salle, hein. Déjà aujourd'hui, on ne sommes pas très nombreux, mais la semaine prochaine, je pense que vous serez encore beaucoup moins nombreux, hein. Mais par la grâce de Dieu, eh bien, j'espère que les dimanches suivants, si nous prions avec cette intention de voir le Seigneur donc nous réveiller, eh bien, que nous pourrons voir l'Église s'affermir, se remplir, voir des âmes venir au Seigneur, être converties, voir des chrétiens avoir un renouveau dans leur vie de consécration, de sainteté, et avoir donc très vite, je dis très vite, les bancs de l'Église pour ce rassemblement du culte, mais c'est pas que ça, bien sûr, on le sait, mais pour ce rassemblement du culte, les bancs et les chaises de l'Église qui vont se remplir par la grâce du réveil que le Seigneur nous accordera. Amen.